Radio Kapi.
Oh, Kapi.
La MONUSCO réaffirme sa volonté de poursuivre son mandat de protection des civils au Nord Kivu, position exprimée par le chef de bureau MONUSCO Goma après une mission héliportée hier jeudi dans le territoire de Rutshuru. Et puis la population du Sud Kivu invitée à se faire vacciner contre la COVID-19, un appel lancé vu la couverture vaccinale actuelle qui est très faible. En effet, la deuxième phase de vaccination démarre le lundi 24 janvier prochain. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le docteur Jérôme Munyangi. Il a présenté le 14 janvier dernier à Kindu le protocole anti-Covid qui, d'après lui, permet la prise en charge de l'infection à Covid-19. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste relativement calme, mais imprévisible, notamment dans le village de Gassiza, groupement Djomba, en territoire de Rutshuru, et Amériki, au sud du territoire de Lubero. Constat fait hier jeudi par une mission héliportée de la MONUSCO conduite par son chef de bureau de Goma. Ces zones sont régulièrement en proie aux attaques de groupes armés, notamment les présumés rebelles du M23 et les combattants des milices locales d'un certain Cabindo. Face à toutes ces menaces, la MONUSCO réaffirme sa volonté de poursuivre son mandat de la protection des civils dans ces zones. Gabriel Wamenya, reportage.
Dans la localité de Mukinga, village Kasiza, en groupement de Djomba, chefferie de Bouisha, la population civile a retrouvé son sourire. C'est comme le témoigne cet habitant.
Nous sommes ici un peu sécurisés parce que la fois passée, il y a eu des cartouches concernant les rebelles. Mais actuellement, vraiment, ça nous assure qu'à partir qu'ils ont arrivé ici, on n'entend pas beaucoup de colère ici.
Au sud du territoire de Lubero, plus précisément à Miriki, en chefferie de Batangi, dernièrement théâtre des affrontements entre des factions rebelles, la quiétude s'est rétablie graduellement. Cet habitant explique. La situation sécuritaire à Miriki est calme, sauf c'est aux alentours que les FPP s'affrontent en Douma. De son côté, la MONUSCO salue l'amélioration de la situation sécuritaire, mais s'est dit toutefois confronté aux défis liés à l'accessibilité dans certaines zones faute d'infrastructures. Le chef de bureau de la MONUSCO à Goma, Julius Fandong, explique.
Le premier, c'est le mauvais état des routes qui freinent leur mouvement et retardent leur intervention.
Notons que des missions conjointes, dites de proximité, seront organisées dans un futur proche, a indiqué Julius Fondong. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
On reste dans la ville de Goma. Des cas de meurtre deviennent récurrents dans cette ville. Au moins 4 corps sans vie ont été retrouvés en l'espace de 4 jours. Et pour la plupart, ce sont des jeunes qui sont abattus et leurs corps jetés soit dans le lac, soit ailleurs, s'inquiète le Conseil urbain de la jeunesse de Goma. Cette montée de l'insécurité préoccupe les organisations de la société civile. Elle demande aux autorités de prendre à bras le corps la question de la sécurité dans la ville. Denise Loukesso.
Deux autres corps sans vie ont été retrouvés mercredi matin dans la ville de Goma après ceux de dimanche et lundi. L'un est celui d'une jeune fille dont l'identité n'est pas connue, trouvée dans la clôture d'une université au quartier Kishiro. L'autre corps est celui d'un jeune garçon qui a été découvert flottant sur les eaux du lac Kivu sur l'avenue de la Corniche. Les sources locales indiquent que la victime aurait été étranglée avant que son corps ne soit jeté dans le lac. Ces derniers cas portent à au moins 4 le nombre de meurtres de jeunes dans la commune de Goma en l'espace de 4 jours. C'était après celui du jeune artiste et musicien Black Sebaloumé et de Yves Kitoga dimanche et lundi dernier. La population parle des criminalités qui atteignent des proportions inquiétantes. Le président du conseil urbain de la jeunesse de Goma s'est dit préoccupé par cette nouvelle forme de criminalité qui cible des jeunes depuis quelques temps. Trésor et Katoto appellent les autorités à prendre à bras le corps les problèmes et y trouver solution. Les autorités urbaines qui reconnaissent cette situation demandent à la population de respecter les mesures mises en place par les autorités provinciales, notamment le respect des heures de couvre-feu sans plus. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
En Ituri, on assiste à un retour progressif de certains déplacés qui avaient fui les atrocités des groupes armés dans leur milieu d'origine, notamment dans les chefferies de Basili et Boga dans le territoire d'Irumu. À en croire des habitants sur place, un calme relatif s'observe dans ces localités malgré la crise économique qui frappe les populations. Pendant ces temps, les autorités provinciales encouragent le retour des déplacés dans la zone de Bambou, dans le territoire de Djougou. Cependant, la société civile de l'Ituri exprime des réserves quant à ce retour qu'elle juge prématuré compte tenu de la situation sécuritaire toujours précaire dans ces localités. Clarisse Ziyundula.
Chaque semaine, c'est une vingtaine de personnes qui retournent à Boga Centre, affirment des habitants de cette localité du territoire de Irumu. Cependant, ces retournés sont dépourvus des moyens de subsistance, rapporte Aïcha Kerikaïdja, un relais communautaire du milieu. Elle invite le gouvernement et les humanitaires à venir en aide à cette population qui a tout perdu dans les atrocités des groupes armés.
Il y a un problème de crise économique, il n'y a pas à manger, point de vue médical, nous demandons seulement l'assistance pour les retourner. En fait, ils disent c'est récupérer.
Dans le territoire voisin de Djougou, les autorités provinciales encouragent le retour volontaire des populations déplacées des Bambou. Cependant, la société civile de l'Ituri estime que la paix n'est pas encore effective et la sécurité des personnes est loin d'être garantie. Dieudonné Lossa, son coordonnateur, juge prématuré ces retours et dit craindre que ces populations retournées ne soient à nouveau victimes des attaques de rebelles.
Et nous croyons que l'État a cette obligation de sécuriser la population et rassurer à la population. Il y a effectivement la sécurité et non pas ramener les gens aujourd'hui et demain voir les gens fuir. Et parce qu'on a déjà vécu ça une fois.
Rappelons que le gouvernement diversifie les mécanismes pour renforcer le processus de paix en Ituri. Bounia, Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Et on parle santé dans cette édition du journal Direction Sud Kivu. La couverture vaccinale contre la COVID-19 reste très faible et représente environ 1% de la population attendue. Ainsi, la division provinciale de la santé invite la population du Sud Kivu à se faire vacciner contre la COVID-19. C'est là en prévision de la nouvelle phase de vaccination qui commence le lundi 24 janvier prochain. Selon Dr Claude Baïziré, chargé de communication de la division provinciale de la santé au Sud Kivu, la faible couverture vaccinale actuelle ne permet pas d'endiguer la propagation du coronavirus. Les propos du docteur Claude Baïziré ont été recueillis par Cynthia Bachizi.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que autour de 15 000 personnes qui se sont fait vacciner contre COVID-19. Or, nous avons besoin de vacciner au moins 70 à 80% de personnes pour nous rassurer l'immunité collective et voir comment est-ce que nous pouvons en finir avec COVID-19. C'est ainsi que il fallait ajouter le nombre de sites. Nous avons passé des commandes de vaccins en quantité suffisante, mais pour le moment, nous sommes en rupture du vaccin Moderna, mais nous avons passé la commande. Nous espérons que pendant la phase de la campagne, nous aurons déjà une quantité aussi commandée de Moderna. Mais nous avons pour le moment Pfizer, nous avons le vaccin Sinovac et nous avons aussi Johnson & Johnson qui sont déjà dans la province. Et nous sommes en train déjà de dispatcher ces vaccins dans les zones de santé qui sont concernées par la campagne, les 20 zones. On est sûr que la population a compris le bien fondé de cette vaccination parce que la vie continue à être très difficile à cause de Covid.
Par ailleurs, la situation épidémique des choléras à Kiliba, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira, s'améliore davantage. Une semaine après l'assistance des ONG Aide et Médecins Sans Frontières Hollande, la courbe de nouveaux cas de choléra reçus au centre de traitement de Kiliba est passée de 30 cas par jour à 8. Toutefois, le médecin directeur du centre hospitalier de Kiliba, Kabulimbo, appelle la population locale à rester vigilante car le danger, selon lui, n'est pas encore écarté, Fiston Goma.
Ces nouveaux cas de choléra sont enregistrés à Kiliba depuis le 25 décembre dernier. Le médecin directeur du centre hospitalier de cette commune rurale, Dr Iman Eloande Wari, attribue la flambée de cette maladie à la pénurie d'eau potable qui connaît la région depuis quelques mois.
La population se ravitaille en eau dans des rivières et avec qu'un soleil ardent qui se fait voir chez nous là et que l'approvisionnement reste l'eau de la rivière, ça fait qu'il y ait beaucoup de cas enregistrés. Les partenaires nous ont ravitaillés en liquide. Ils nous ont ravitaillé en chlore. Il y a des gens pour faire la chloration d'eau. Il y a la pulvérisation du milieu. Si on trouve un cas dans la maison, on doit pulvériser au moins 30 maisons avoisinantes ouvert.
Sur 423 cas signalés depuis le début de l'épidémie, dans l'ensemble de la région de Kiliba, 5 décès ont été enregistrés, dont 2 au centre hospitalier de Kiliba Kabulimbo, 1 cas de décès au centre hospitalier de Kiliba Sucreri et 2 autres cas dans la communauté. Les organisations de la société civile continuent de sensibiliser sur les mesures de protection dans toute la plaine de la Ruzizi. D'Ouvira Fiston, Mamayaba, la Radio Kapi.
On revient ici à Kinshasa. La gestion des fonds alloués au Covid-19 a été très opaque. Ce terme se trouve dans les rapports qu'a rendu public hier jeudi à Kinshasa le mouvement Filimbi en collaboration avec l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Ce rapport porte sur la gestion de ces fonds affectés par l'État à l'hôpital général de référence ex-Mamayemo. Pour Filimbi, après analyse des documents financiers, l'hôpital n'arrive pas à justifier plus de 600 000 dollars américains. Qu'est-ce qui a motivé Filimbi à mener cette enquête? La réponse avec Rachidi Malundama, chargé des comptabilités et finances pour ses contrôles. Il est au micro de Philbert Balolagué.
Au regard des éléments en notre possession, notamment les rapports financiers établis par les responsables de Mamayemo, sur l'ensemble des fonds que Mamayemo a perçus, soit plus de 600 000 dollars américains, les rapports envoyés au ministère ne retracent que un peu moins de 90 000. Donc de là, on s'est posé mille et une questions. Pourquoi Mamayemo n'arrive pas à justifier les fonds à hauteur de 600 000 dollars? Et de là, on est arrivé à comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont à la base, notamment une cacophonie sur une double nomination des gestions de cet hôpital. D'une part, il y a le gouverneur qui a nommé et de l'autre, il y a le ministre. Et dans la foulée, il y a eu, semble-t-il, des désordres. Et selon les responsables de cet hôpital, c'est que dans ces désordres-là, que certains éléments de la police auraient emporté des pièces. Et donc, de là, on s'est dit, dans notre rôle de citoyen, nous allons nous lancer dans une enquête visant justement à adresser une certaine traçabilité de ces fonds.
Contacter le médecin directeur de l'hôpital général de référence a promis de réagir dans les heures qui viennent. Dans la province du Maniema, la hausse des prix de carburant dans la ville de Kindu a été une opportunité pour certains opérateurs économiques de se faire de l'argent. C'est le cas pour les armateurs qui, au lieu de 200 francs congolais, y demandent 500 par passager pour la traversée des deux rives du fleuve Congo. Poussé par le gouvernement provincial de reprendre l'ancienne tarification de 200 francs, ces armateurs ont déclenché une grève momentanée l'avant-midi d'hier jeudi. Grève qui a perturbé le trafic entre les deux rives. Florence Kizalunga.
Cette grève momentanée des armateurs a créé un grand engouement de deux côtés de la rive et jusqu'à pénaliser les étudiants, commerçants, travailleurs et toute autre personne qui voulait traverser le fleuve Congo. Certaines personnes que nous avons rencontrées parlent d'une mauvaise foi des armateurs.
Je suis désolé de voir que les armateurs puissent se décider unilatéralement comme ça de déclencher un mouvement de grève pour leurs intérêts égoïstes. C'est parce que un prix du litre d'essence, le prix est arrivé jusqu'à 12 000, 13 000. Et ils avaient raison de rehausser les prix d'aller de 200 à 500 francs. Maintenant qu'aujourd'hui la situation a été maîtrisée, pourquoi ne pas aussi rabattre les prix? Cela a une incidence sur la vie socio-économique de la population.
C'est depuis le matin que je suis au beach ici. On n'arrive pas à traverser. Je travaille de l'autre côté, à la rive gauche. Je suis bloqué, je n'arrive pas à aller dans mon lieu de service. Même les vendeuses et vendeurs des aliments n'arrivent pas à faire traverser leurs produits.
Saisi, le gouverneur ad intérim a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables de ces armateurs. Au sortir, ils se sont convenus de rabattre le prix à 200 francs congolais par passager, comme autrefois, avec d'autres avantages à ces armateurs, comme l'ajout de 2 sièges par pirogue pour leur permettre de couvrir les coûts. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À l'Équateur, naufrage dimanche dernier d'une baleinière sur le fleuve Congo à 105 km en amont de Mbandaka. Nous l'avons appris que hier jeudi, le bilan provisoire fait état de plusieurs disparus parmi les 600 personnes qui étaient à bord avec leurs marchandises. À peine 3 corps de victimes ont été repêchés jusque-là, mais plusieurs autres seraient encore sous l'eau, indiquent des témoins Paul-Richard Malekela.
Des rescapés retournés en Bandaka affirment que la baleinière appartenant à un certain armateur Ouera a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi dernier. L'embarcation en bois était dans un état vétuste. C'est ainsi qu'elle a connu sa dislocation au milieu du fleuve sous l'effet de la surcharge. Témoignage d'Anissé Bobamba, l'un des rescapés qui a tout perdu. La baleinière était vieille. Sa partie supérieure s'est abattue soudain sur les passagers avant la dislocation totale de l'embarcation. Nous nous sommes accrochés au bois sec qui flottait, d'autres personnes sur des bidons vides. Mais il y a eu des morts enfouis dans la coque de la baleinière. À bord, nous étions à peu près 600 passagers. Le commissaire fluvial de Mbandaka compétent Boyo a avancé le nombre de 180 disparus dont des blessés. Ils ont été répertoriés par l'équipe d'un député élu de Bomongo. À leur arrivée à Mbandaka, ils ont bénéficié d'un appui du gouvernement provincial, a-t-il ajouté. Mais nombreux sont des commerçants et des vacanciers qui ont tout perdu. Ils sollicitent l'appui financier des autorités et des personnes de bonne volonté. Enfin, plusieurs rescapés ont apprécié l'intervention des écocardes de l'ICCN basés au poste d'Ipombo, lieu du naufrage. Avec certains pirogués des campements environnants, ils les ont recueillis puis ramenés sur la terre ferme, ont-ils témoigné. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, le vol de la mission des Nations Unies dans ces pays peuvent reprendre. Ces appareils étaient cloués au sol depuis lundi du fait de la réorganisation du processus d'approbation des vols de la mission onusienne par le gouvernement de transition. Rien à voir, précisons-le, avec les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. Des discussions fructueuses avec les autorités maliennes ont finalement permis, selon la MINUSMA, cette reprise des vols.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Jérôme Mounyangi Wankula qui a présenté et expliqué le vendredi 14 janvier dernier au grand public de Kindu le protocole anti-Covid dans une matinée scientifique. Ce chercheur congolais a présenté les évidences cliniques et biologiques de l'anti-Covid dans la prise en charge de l'infection à Covid-19 en RDC et au Maniema. Jérôme Mounyangi s'entretient ici avec Florence Kizalunga. Suivez.
Docteur Jérôme Mounyangi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Vous venez d'animer une matinée scientifique sur les évidences cliniques et biologiques des anti-Covid dans la prise en charge de l'infection Covid-19. Quel sens que vous donnez à cette activité?
Bon, cette activité s'inscrit vraiment dans le cadre de nos recherches. Nous avions mené depuis 2020 que nous avions ouvert les sites de notre essai clinique ici à Kindu. Et aujourd'hui, nous avons de premiers résultats de notre produit dans le traitement de Covid-19, donc anti-Covid. Et on devait parler pour montrer ce que nous avons déjà fait et nous avons sollicité aux autorités des régulations l'amendement de notre protocole pour que nous passions à une autre phase, donc la phase 3 de notre essai clinique. On devait partager aussi avec la communauté scientifique provinciale et surtout l'équipe de prise en charge de COVID localement sur les nouvelles recommandations des autorités nationales et internationales comme nous travaillons aussi sous le contrôle du protocole de l'Organisation mondiale de la santé.
Et quelle a été la réaction de la communauté par rapport à votre recherche de votre produit ici au Maniema?
D'abord, là, certes, il y a certaines hostilités, c'est pas d'autres prestataires de soins, mais les produits se comportent très bien parce que comme nous l'avons constaté ailleurs et nous venons de le constater au Maniema, les personnels de santé sont les personnes les plus exposées. C'est une catégorie de population la plus exposée à cette infection de Covid. Donc, parmi nos malades ici au Maniema, à Kindu, il y a eu beaucoup de personnel soignant, de médecins, des infirmiers, des laborantins, des biologistes qui ont été touchés par cette maladie et qui ont été soignés par des protocoles anti-Covid. Donc, nous avons vraiment trouvé cet accueil favorable de la communauté scientifique provinciale et nous avons réfléchi comment nous pouvons améliorer la prise en charge des Covid avec des solutions congolaises.
Docteur, à part la province du Maniema, où avez-vous encore mené votre recherche?
Nous avions commencé notre recherche sur le site de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda à Matadi qui a été le premier site où nous avons travaillé et après on est parti à Bunia, Goma, Bukavu aussi et au Maniema. Donc il y a plusieurs provinces, là, les provinces que je viens de citer, ce sont les provinces qui sont concernées par nos recherches de Covid-19 ou la ville province aussi de Kinshasa comme nous avons quelques cas dans la province de Kinshasa. Et les résultats sont toujours bons, satisfaisants, ce qui nous encourage à continuer et surtout à passer à des phases supérieures de notre recherche.
À part anti-Covid, vous avez aussi présenté un autre produit qui est Artipali. Où vous êtes à quel niveau avec votre recherche?
Merci vraiment. Nous sommes revenus un peu sur la recherche du paludisme. Actuellement, avec la pandémie de Covid-19, il y a un peu de recul dans la lutte contre le paludisme. Or, c'est notre fléau, c'est notre ennemi mortel. Et aujourd'hui, je peux dire que nous assistons à une augmentation sont des cas de malaria partout sur le continent africain. Et la RDC, une fois de plus, a été classée deuxième sur le continent africain après le Nigeria, où il y a beaucoup de cas de la malaria. Donc, nous avons déjà fini notre recherche du produit. Donc, il est déjà là, Artipalu. Nous sommes dans la province pour présenter aussi ces nouveaux produits qui viennent renforcer l'arsenal thérapeutique congolais et qui va passer, bien sûr, dans les phases des essais cliniques comme le recommande l'autorité des régulations congolaises.
Docteur Munyengi, pour mener à bon port votre recherche, qu'est-ce que vous avez comme demande à la communauté scientifique?
La communauté scientifique, seulement de nous accompagner. Certes, le métier du chercheur n'est pas facile. Personne ne peut faire la recherche seul. Nous pouvons faire la recherche qu'avec une équipe interdisciplinaire, donc toutes les disciplines, toutes les personnes désireuses d'apprendre ou de nous apporter un plus dans ces recherches sur le plan national qu'international, et aussi des contributions parce que nous sommes une fondation. Les gens qui veulent appuyer aussi la lutte contre la malaria ou la lutte contre d'autres pathologies sur lesquelles nous sommes en train de travailler, la porte elle est ouverte pour que nous puissions répondre à cette invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République et de que les solutions africaines soient trouvées aux problèmes africains, les solutions congolaises soient trouvées aussi aux problèmes congolais. Et nous travaillons dans ces domaines de recherche médicale. La porte elle est ouverte et nous sommes là pour écouter et recevoir les critiques, les observations pour que nous puissions nous améliorer et apporter des solutions à nos problèmes sanitaires en RDC.
Docteur Jérôme Nyangui, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et merci à vous de nous avoir suivis.